voudrais d'abord vous féliciter, cher pèlerin, pour ce témoignage de foi que vous avez donné pendant 3 jours, cet esprit de pénitence que vous avez manifesté, et en particulier ces enfants. Et je voudrais remercier aussi de façon particulière toute la logistique qui se dévoue de façon admirable à ce que ce pèlerinage soit justement une belle œuvre de pénitence et de foi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Vous avez vu que sur la couverture du livret de pèlerinage, il y a un lien entre Cotignac, 500e anniversaire, et la chrétienté. Quel est ce lien? La Mère de Dieu a veillé et elle veille sur nous, sur la France, sur ses fidèles, sur ses enfants. Cotignac, ce petit mont de Provence, peut être peu connu de la plupart, et pourtant d'une grande importance pour nous, et surtout d'une belle acuité encore aujourd'hui impressionnante. Et notre témoignage, c'est justement ce pèlerinage. Les pensées, les paroles, les actes de la Sainte Vierge ne sont pas comme les nôtres, trop éphémères. Ils sont ceux de la Sainte Vierge, ils sont ceux d'une personne qui confine à la divinité. Marie est la mère du seul Dieu vrai qui est Jésus-Christ, hors duquel il n'y a pas de salut. Et Cotignac est à cet égard actuel pour 2 événements notoires. Le premier, c'est bien sûr l'apparition à ce bûcheron Jean de la Baume. Mais le deuxième, c'est la naissance du Dieu donné à la France. Le premier donc, nous le connaissons sans doute pour l'avoir lu dans ce livret, nous avions peut-être réfléchi pendant ces 3 jours, c'est l'apparition de la Sainte Vierge le 10 août 1519 à un bûcheron, Jean de la Baume. Vous connaissez l'histoire, dans un tourbillon de lumière, il a vu la Sainte Vierge, l'enfant Jésus dans ses bras, et ce qui est important, entouré de 3 saints, Saint Michel, Saint Bernard et Sainte Catherine. Et la Sainte Vierge lui a dit, « Je suis la Vierge Marie, allez dire au clergé, au consul de Cotignac, de venir me bâtir ici même une maison sous le vocable de Notre-Dame des Grâces. » Et elle ajoute, « Qu'on y vienne en procession pour recevoir ces dons que je veux y répandre. » Et le lendemain, la Vierge lui dit tout simplement, « Je suis la Mère de Dieu. Je désire, dit-elle, accorder beaucoup de grâce à ceux qui viennent y prier. » Et certainement, cette influence de la Sainte Vierge est notoire, puisque Cotignac, à l'époque même, au XVIe siècle, fut épargné durant les guerres de religion. La Mère de Dieu protège ainsi non seulement la région, mais son royaume, d'une révolution qui est toujours actuelle et qui a son fondement dans le protestantisme. Car en 1519, Luther s'est déjà levé violemment contre Rome, en particulier contre le pape Léon X, qui justement va accorder aux pèlerins de Cotignac des indulgences, parce que, dit-il, il a vu que beaucoup de miracles s'y accomplissaient. Nous savons que les protestantismes, sous toutes ses forces et sous toutes ses formes, ont toujours combattu le culte marial. À l'opposé, nous voyons en notre pays la Mère de Dieu défendre ses enfants de sa sainte protection. Quelle mère n'a pas soin de la santé de ses enfants et surtout lorsqu'ils sont fragiles? La recherche de l'enfant Jésus perdu à Jérusalem manifeste justement le souci de cette mère, Mère de Dieu, son souci intense et délicat de retrouver son fils. Et par le baptême, nous savons, nous sommes d'autres Christ. Et à la croix, Jésus nous a confié en Saint Jean à sa mère. Nous savons que la perte spirituelle, c'est la damnation éternelle. Et nous savons notre fragilité spirituelle. Voilà pourquoi nous avons besoin d'une mère. Notre-Dame veille sur nous, pour nous garantir de la chute et du trépas. Elle est, justement, elle le dit, Notre-Dame des grâces. Elle est la dispensatrice indispensable de ces secours surnaturels dont nous avons constamment besoin pour persévérer dans la voie prise au baptême qui conduit à la gloire éternelle en sa compagnie toujours maternelle. La Sainte Vierge a dit au bûcheron, elle veut répandre ses dons, non seulement ses grâces, mais cette vie surnaturelle en abondance, pour que nous puissions juger de tout sous le seul regard d'éternité. Et notre fragilité spirituelle vient trop souvent d'un attachement trop grand à nous-mêmes, au détriment de l'attachement à Jésus-Christ seul. Non seulement Marie nous donne ses dons, mais elle montre l'exemple. Elle est tout entière et rien qu'à son Fils. Elle n'est rien d'autre, Marie, que la Mère de Dieu. Devons être ses enfants pour être comme elle, tout à Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Mais malheureusement, comme des enfants souvent indolents ou mal disciplinés, nous nous écartons de la voie et Marie nous reconduit, nous ramène constamment à son Fils. La Mère de Dieu nous récapitule en quelque sorte en son Fils. Vierge fidèle, elle sait toujours nous reconduire sous la houlette du bon pasteur. Son entreprise est inlassable, douce et profonde. Elle est notre âme des grâces. Le danger n'est pas moins grand aujourd'hui qu'il y a 500 ans en 1519. Et le péril est le même, plus grave encore, plus profond. Car nous le savons, malheureusement, c'est Rome qui distille le venin de l'erreur. Les succès d'années de Luther sont à l'œuvre. Une œuvre de déconstruction systématique est entreprise. Non seulement le Concile Vatican II a entériné un faux mouvement écuméniste antérieur, mais plus encore, malheur, Rome développe une conciliation illusoire, folle et blasphématoire avec les ennemis de Jésus-Christ. Ni l'islam, ni le judaïsme n'adorent Dieu qui est Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul Dieu, Jésus-Christ, le Fils de Marie. Ce faux écuménisme conciliaire est une gangrène qui, par la nouvelle messe, ronge, comme disait saint Pie déjà, jusqu'au moelle de l'Église. Saint Paul disait déjà, saint Paul le grand apôtre disait déjà, jugez ceux qui tiennent des discours vains et profanes, ils croîtront de plus en plus dans l'impiété et leur doctrine gâtera peu à peu ce qui est saint, il la gâtera comme une gangrène, disait l'apôtre. Que Notre-Dame des grâces nous préserve de cette perversion qui n'est pourtant pas peut-être sans nous atteindre. Car un des fléaux du protestantisme, c'est de majorer la conscience individuelle au détriment de l'obéissance à la loi quand elle est bonne et à l'autorité. Et alors l'obéissance disparaît au profit d'un consensus. Le goût personnel ou le sentiment prime sur l'intégrité de la vérité. Le vagabondage liturgique aujourd'hui est un grand défaut au détriment justement de l'affirmation de l'intégrité doctrinale qui ne consiste pas seulement dans la validité d'un rite mais dans l'ensemble de la proclamation de la foi et dans la vie sociale qu'elle réclame. Le deuxième événement de Cotignac a eu lieu le 3 novembre 1637. Louis XIII et la reine espérait depuis plus de 20 ans la naissance d'un fils. Et partout en France, dans le royaume, on prie à cette intention. Le 27 octobre 1637, à Paris, le frère Fiacre a une inspiration intérieure. Il faut que la reine fasse célébrer 3 neuvaines de prière. Une à Notre-Dame des Grâces, une à Notre-Dame de Paris et une à Notre-Dame des Victoires, le couvent du frère Fiacre. Pour croire à cette révélation, son confesseur, à qui il la révèle, lui demande un signe. Et le 3 novembre, frère Fiacre fut tiré de sa prière vers 2h du matin dans sa cellule par des cris de nourrissons. Et il voit la Vierge apparaître, un bébé dans ses bras. N'ayez pas peur, Je suis la mère de Dieu, et l'enfant que vous voyez est le dauphin que Dieu veut donner à la France. » Le frère Fiacre dira que la Vierge était vêtue d'une robe bleue, semée d'étoiles. Trois couronnes ornaient sa tête et ses cheveux retombaient sur ses épaules. La Vierge disparut, mais revenue encore trois fois dans la même nuit. Et la quatrième fois, dans cette même nuit, la Sainte Vierge se montre cette fois-ci seule et dit au frère Fiacre, « Ne doutez pas, mon enfant, de ce que vous avez déclaré à votre confesseur. Pour marquer que je veux qu'on avertisse la reine de faire trois neuvaines en mon honneur, voilà la même image qui est Notre-Dame des Grâces. » Et le 8 novembre 1637, le frère Fiacre va commencer ses trois neuvaines de rosaire qui vont donc s'achever le 5 décembre 1637. Le 10 février 1638, Louis XIII, vous le savez, va consacrer à la Vierge sa personne, son état, sa couronne, ses sujets. Et en marque de sa consécration, il ordonne de faire construire le grand autel de la cathédrale de Paris, Notre-Dame, avec une image de la Vierge qui tiendra en ses bras son fils descendu de la croix. Louis XIV dit justement « Dieu donné » est né justement le 5 décembre 1638. Il a donc été conçu le 5 décembre 1637, date d'achèvement de la neuvaine du frère. Il est manifeste que la Mère de Dieu est mère de chacun de nous des baptisés, mais elle l'est aussi de nous, corps constitué, corps politique. La mission de Notre-Dame des Grâces est donc une mission non seulement personnelle sur chacun d'entre nous, mais une mission politique. Et le monde moderne a horreur de cette mission. Le monde moderne est laïque, se hérisse, et pourtant il en est ainsi. Notre-Dame est reine, elle porte une triple couronne, son fils est roi, roi de la terre et roi des cieux. Le royaume de France a été appelé à juste titre le royaume de Marie. Les chefs de la nation se sont fait gloire longtemps d'affirmer et de défendre cette dévotion vers la Vierge. Clovis s'empresse sur les ruines d'un temple druidique de poser les fondements de l'Église, de Notre-Dame, qu'acheva son fils Childebert. Plusieurs temples sont dédiés à Marie par Charlemagne. Les ducs de Normandie proclament Marie reine de la nation. Le roi Saint-Louis récite chaque jour l'office de la Sainte Vierge. Louis XI édifie à Cléry un temple Notre-Dame. Louis XIII consacre le royaume à Marie. C'est ce que dit Pie XI. On n'en finirait pas de dire tous les princes qui ont au puits en particulier honoré la Mère de Dieu, patronne, protectrice de ses sujets et de la France. Notre-Dame des Grâces réclame d'ailleurs une chapelle pour y faire procession. Pour y faire procession. C'est-à-dire une dévotion non seulement individuelle, mais sociale et politique. Notre-Dame des Grâces veut justement une manifestation publique rendue à l'honneur de son Fils, le seul vrai Dieu. Et pourquoi, c'est pourquoi elle tient l'enfant Jésus dans ses bras. Marie tient dans ses bras le Créateur et le Maître de toutes choses. Et il nous a créés en une nature sociale et politique. Il est certain qu'on ne va au ciel que par ses propres mérites, mais il est non moins certain que nous nous sauvons selon notre nature, surélevée par la grâce, et non pas contre nature. Or, notre nature est politique et sociale. Et Jésus, qui est Dieu et qui est le Créateur, ne saurait détruire l'ordre naturel par l'ordre surnaturel. Et la charité, qui est l'amour de Dieu par-dessus tout, est une vertu surnaturelle, éminemment politique, car elle est la seule vertu qui récapitule tout dans l'unité de Jésus. Elle n'est donc pas cet amour dévoyé et tordu qu'on veut nous voir adopter vis-à-vis d'éléments exogènes qui justement dissolvent les liens sociaux. Et voilà l'importance de nos pèlerinages. C'est la manifestation publique de notre chrétienté, l'attachement bien manifeste et social aussi de notre foi à Jésus-Christ. Et saint Pie X n'a pas craint de dire « La France est le royaume de Dieu même, Les ennemis de la France sont les ennemis du Christ. Pour ce motif, Dieu, dit saint Pilice, aime la France parce qu'il aime l'Église qui traverse les siècles et recrute des légions pour l'éternité. La Mère de Dieu, dont toute la charité est donc d'aimer Dieu par-dessus tout, d'aimer son Dieu et son Fils, eh bien ne saurait moins aimer cette France dont elle est la reine, comme disent les papes. C'est Notre-Dame des Grâces qui a obtenu à la France Dieu donné, à ce royaume très chrétien. Et, vous le savez, Louis XIV, pour rendre grâce à la Vierge, viendra faire un pèlerinage à Cotignac en 1660. La révélation frère Fiacre a donc une conséquence politique. Elle implique que la politique naturelle soit soumise à la politique surnaturelle, que l'État soit subordonné à l'Église. Cotignac, c'est servir la chrétienté, c'est comprendre que c'est une notion de politique à méditer pour garder l'esprit indemne du laïcisme qui nous emporte aujourd'hui et qui envahit tout. Notre-Dame de Grâce est donc la mère du Christ roi et elle donne à ses enfants les dons pour poursuivre la quête de ce royaume. Les enfants de Marie ne sauraient donc accepter ce que Vatican II a prôné et les pontifes suivants aussi, la trop funeste liberté religieuse, c'est-à-dire la reconnaissance par l'État d'un espace autonome pour chaque religion qui conduit à un indifférentisme total dont on voit aujourd'hui les ravages. Le royaume du Christ n'est pas une chimère, c'est une réalité à reconquérir et tous les jours. Vous serez davantage de votre pays, disait le cardinal Pie, à mesure que vous serez plus chrétien. La France est liée au christianisme par toutes ses fibres, disait ce cardinal. Ce pèlerinage que vous avez fait avec courage et persévérance, comme tous ceux qu'on fait, ou toutes nos processions publiques, atteste justement au monde laïque que la civilisation chrétienne n'est pas éteinte et a le droit, seule elle a le droit de s'étendre. Vous savez que saint Pédice a dit en 1910, il s'agit de restaurer la cité catholique sur ses fondements naturels et divins contre les attaques toujours renaissantes de l'utopie malsaine, de la révolte et de l'impiété. Telles sont les paroles de saint Pédice, notre saint patron, en 1910. Alors je ne saurais que vous encourager à persévérer dans ces efforts manifestés et vous donner une seule résolution qui pourrait conclure, consommer chaque jour du Cotignac, cette gelée épaisse de coing avec un brin de rouge de cochenille. Mais je conclurai davantage encore. L'heure n'est pas à la dispersion causée par la modernité, le modernisme. Méfions-nous des sirènes qui tentent à dissiper le troupeau. La communication et les moyens qu'elle emploie aujourd'hui sont de plus en plus rapides et nuisent à la pondération des jugements, à la prudence, à la sagesse pratique. Alors sachez, comme Sainte Jeanne d'Arc, invoquer Sainte Catherine qui a apparu aux côtés de la Sainte Vierge. Sainte Catherine, cette Vierge du IIIe siècle qui a su réfuter ces soi-disant sages païens, mais il est vrai qu'il en est morte martyre. L'heure est à la dispersion. Si la charité est éminemment une politique, c'est parce qu'elle unifie contre la dispersion causée par le péché et le démon. La charité veut rendre parfait, mais n'exclut pas pour autant les vertus naturelles et politiques. Et c'est elle qui doit susciter, autant que c'est possible, la responsabilité politique de l'un ou l'autre, en particulier à l'échelon communal. N'oublions pas non plus que saint Bernard est apparu aux côtés de la Sainte Vierge et que saint Bernard s'est battu pour que le pouvoir temporel soit parfaitement soumis au surnaturel. N'oublions pas qu'il a prêché la croisade pour rendre à Jésus-Christ les royaumes qui lui appartiennent. L'heure n'est pas à la dispersion. Sachons au contraire recentrer notre vie pour recentrer notre pays. Notre vie surnaturelle n'est pas faite que de foi. Elle est faite des 7 vertus, 3 théologales et 4 cardinales. Resserrons les rangs car une armée dispersée est une armée qui s'affaiblit, est une armée qui perd. Sachons alors nous mettre sous la bannière de saint Michel, le troisième qui apparaît aux côtés de la Sainte Vierge, pour que, fort comme lui, nous sachions crier quand il faut qui est comme Dieu, qui est Jésus-Christ. Demandons à la Sainte Vierge de Cotignac de faire de nous, encore et toujours, des enfants de France, catholiques et toujours, pour l'éternité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.